Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Un magazine sur le patrimoine, les coutumes et les traditions. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancelles 106.3 et Fréquence Sillée 97.9. En partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Métallurgie, c'est le travail de tous les métaux, aussi bien les métaux communs que les métaux précieux comme l'or et l'argent. La sidérurgie, c'est le travail des métaux ferreux, donc le fer, la fonte et l'acier, l'acier qui est apparu plus tardivement. Le haut fourneau dont on a parlé, c'est le haut fourneau au charbon de bois. Donc on traitait le minerai de fer avec du charbon de bois, de la castine, et on obtenait de la fonte. Le cubilot, c'est la fonderie. C'est complètement différent, c'est de la seconde fusion, c'est-à-dire que on fond dans le cubilot avec non plus du charbon de bois mais du coke, de la fonte qui nous vient d'ailleurs et qui revient beaucoup moins cher que la fonte au charbon de bois comme on faisait au 17e, 18e siècle et jusqu'en 1860 pour Antoigné par exemple.
Patrice Grégoire est un passionné d'histoire de la métallurgie. Il anime une conférence au temps où les hauts fourneaux au charbon de bois flamboyaient dans nos campagnes, dans laquelle Patrice Grégoire compte l'évolution de l'activité métallurgique au travers notamment de l'histoire de la fonderie d'Antoigné à Saint-James-sur-Sarthe. Une conférence proposée au public de la deuxième édition du Printemps littéraire à Vivoin le 18 juin dernier.
Alors, à travers l'exposé que vous avez présenté ici dans le cadre de ce printemps littéraire à Vivoin, on a bien senti trois grandes périodes. On a senti la période, en gros, des hauts fourneaux disséminés un peu partout.
Oui,
puis on a senti ensuite, des installations beaucoup plus importantes autour de gros sites comme Antoigné avec la famille Chappé. Puis après, bon, c'est plus votre domaine directement, c'est l'installation de la SGF, ce qu'on connaît, nous, comme ce qui reste d'Antoigné. Bon, sur la période Chappé, en quoi cette période est intéressante du point de vue, on va dire, de la technologie et du point de vue des relations entre ouvriers et patronat?
Alors, la technologie, c'est la diversité des produits qui vont sortir de l'usine d'Antoigné. Mmh. On connaît les radiateurs, on connaît les poêles, mais aussi les tuyaux, pour l'adduction d'eau, pour les produits pour le chemin de fer, mais pour l'homme tout commun. Pour la famille, les gratte-pieds, les chausses-bottes, les seaux, des chaufferettes. Et donc c'est la diversification des produits. Par contre, ce qui caractérise Chappé, c'est le paternalisme. Hein, ce paternalisme qui commence au Second Empire et qui est valable pour toute la France et toutes les grandes familles, les grands patrons sartois, les grands patrons français et les grands industriels français du Second Empire.
Vous avez évoqué un certain nombre de sites qui nous intéressent aussi dans le pays de Haute-Sarthe. Vous avez évoqué Cordée, l'Aulne. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce coin-là, là, entre Mont-Saint-Jean et puis Montreuil, en gros?
Alors, c'est essentiellement la forge qu'on connaît sous le nom de forge de l'Aulne, mais qui rassemblait un haut fourneau à Cordée et l'affinerie à l'Aulne. Hein, ces deux établissements fonctionnaient en même temps. On transportait les gueuses de fonte à l'Aulne, et elles étaient transformées en barres de fer.
Alors, les gueuses, faut nous dire ce que c'est quand même.
Alors, les gueuses, c'est la fonte qui est obtenue à la sortie du haut fourneau. Le haut fourneau, on met dedans du charbon de bois, du minerai de fer et un fondant calcaire. Au bout de quelques heures, eh bien, on ouvre le fourneau et la fonte jaillit, s'écoule dans un moule en sable triangulaire, en gros de forme triangulaire, et ce moule, eh bien, va donner la forme à la gueuse, c'est-à-dire à la fonte qui est obtenue à la sortie du haut fourneau.
Alors, sur des sites comme Cordée et l'Aulne, pour rester dans ce secteur-là, on a développé une activité de ce type vers quelle époque?
Alors, Cordée et l'Aulne, bah, c'est c'est toujours un peu la même période, c'est-à-dire le 17e, 18e siècle. Mais les forges au charbon de bois, très rapidement, je vous l'ai dit, vers les années 1820, vont péricliter et l'Aune va se reconvertir. C'est la famille Hédin qui va prendre la forge de l'Aune. La famille Hédin va hériter de la forge de l'Aune de Joseph Chevet, un des collaborateurs de Victor Doré. Et la fin de la forge de l'Aune, c'est 1880, en gros. Un cordéon, c'est 1880.
Aujourd'hui, si on est promeneur et qu'on va par exemple au Mans, qu'est-ce qu'on peut voir de remarquable qui reste en extérieur comme ça, de témoignages de cette époque et des réalisations?
Alors, le promeneur, s'il regarde ses pieds, peut-être qu'il peut encore trouver quelques bouches d'égout, quelques descentes de gouttières qui ont été fabriquées et qui portent le nom de Chappet ou de Victor Doré et Joseph Chevet. Il y a deux choses remarquables de cette période, Victor Doré et Joseph Chevet, c'est la fontaine des Jacobins au pied de la cathédrale. Ensuite, il y a la vasque et la statue de la grande vasque de Chappet qui a remporté le Grand Prix de fonderie à l'exposition universelle de 1889, qui se trouve au Jardin d'horticulture du Mans, le Jardin des Plantes. Et sinon, pour la période plus ancienne, on a l'hôtel des Portes, qui se trouve en face le restaurant Le Grenier à Sel, pardon pour la publicité, mais c'est le plus facile pour le retrouver. Quand on va de la place de l'Éperon vers les Jacobins, c'est cet hôtel particulier qui est en contrebas, qui abrite la
rue des Anciennes Boucheries, en fait. Voilà.
Racines et patrimoine en pays de Haute-Sarthe. Une émission coproduite par Radio Alpes-Mancel 106.3 et Fréquence Sillé 97.9 en partenariat avec le pays de la Haute-Sarthe.
Vous avez évoqué aussi des petites choses fabriquées donc en métal. Vous avez évoqué des clous. Ça paraît banal aujourd'hui, oui. un clou. Ceci dit, il y a toutes sortes de clous qui étaient fabriqués. Vous avez cité un moment Ciel Guillaume dans votre exposé. Oui. À propos des clous, c'est quoi le lien?
Il y avait quelques forges de cloutiers à Ciel Guillaume. C'est-à-dire que les fers en verge qui sortaient de la fenderie des forges, eh bien, le surplus qui n'était pas utilisé par les artisans du coin, était utilisé par les cloutiers. Et Ciel Guillaume était réputé comme un village de cloutiers, donc on avait des petites forges de cloutiers. Les artisans réchauffaient les verges de fer dans des fours qui ressemblaient à ceux de nos maréchal-ferrants, et puis avec une petite matrice, ils les frappaient avec un marteau, et ils donnaient la forme aux clous. Donc on avait des clous de toutes formes, de toutes sortes. Les plus curieux sont les clous souvent à glace qu'on mettait sous les sabots des chevaux. Mais il y avait une multitude de clous différents.
Alors justement, on va finir par les chevaux, parce qu'à un moment, vous avez évoqué les transports. On avait du mal à imaginer des quantités aussi importantes de chevaux pour assurer le transport. Donnez-nous quelques mots là-dessus, parce que vous vous enflammez quand vous parlez de ça.
Alors, les chevaux, effectivement, une forge comme Antoigné ou Aune, c'était une cavalerie de 400 chevaux. Je sais pas, c'est très difficile à imaginer. 20 ou 25 voituriers qui avaient une vingtaine de chevaux avec eux. Des chevaux qui étaient très robustes, petits, à demi sauvages. Et ils les rassemblaient au cri de hurlot. Donc, ça a été le nom donné à ces petits chevaux. Et ce qui est cocasse, c'est que c'était le maître de forge qui fournissait les voitures en chevaux, donc soit il leur prêtait des chevaux qu'il avait, soit il leur donnait de l'argent pour acheter des chevaux, mais souvent les voituriers se sauvaient avec l'argent, on ne les revoyait pas, c'était un peu des nomades. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour nourrir ces chevaux, eh bien, ils les lâchaient dans les ensemencées des paysans. Et ben, on imagine facilement que les paysans n'étaient pas très très contents, et de temps en temps, ils prenaient le fusil ou le tromblon pour régler les comptes.
Alors c'est plein de choses comme ça qu'on retrouve sans doute dans le livre que vous présentez ici. Nous sommes dans le printemps littéraire, donc vous présentez aussi un livre, pas seulement une conférence devant le public, et d'ailleurs qui a été passionné, qui a posé plein de questions, c'était très intéressant. Un petit mot sur ce livre, qu'est-ce qu'on y retrouve?
Alors ce livre à l'origine, c'est un travail universitaire que j'ai mené au départ sous la direction du professeur François Dornic, qui nous a quittés déjà depuis pas mal d'années, et donc j'ai poursuivi ce travail. Donc on y retrouve bien entendu toute l'histoire d'Antoigné depuis 1618, mais comme l'archéologie nous fait un petit peu défaut à Antoigné, c'est-à-dire que le haut fourneau a complètement disparu, la cheminée d'affinerie a complètement disparu, donc il m'a fallu parcourir les autres départements, en particulier la Basse-Normandie, pour trouver des hauts fourneaux en état, au Champ de la Pierre, à Varennes, la commune de Champsecret. À Champsecret, il y a une association qui protège le haut fourneau, on peut visiter la forge. À l'Aune, dans le Perche, c'est pareil, il y a un petit musée fort sympathique avec un marteau en état. Ce sont des promenades qui peuvent intéresser beaucoup de gens, parce que ce sont des sites merveilleux où règne le calme. Et donc sillonnant la Basse-Normandie, sillonnant un peu la Bretagne, sillonnant le Perche, eh bien avec mon épouse et puis ma petite fille à l'époque, on a fait énormément de photos pour essayer de garder la mémoire de tous ces vestiges, quoi. Y compris la fabrication du charbon de bois, comme à l'époque de Diderot et d'Alembert, pour essayer de garder ces témoignages qui sinon disparaîtront.
Donc votre ouvrage, on peut se procurer dans toutes les librairies ?
Normalement, on peut se procurer dans toutes les librairies, les bonnes librairies du Mans. Si on ne le trouve pas en librairie, il ne faut pas hésiter à demander au libraire de le commander. L'éditeur imprimeur, c'est ITF à Mulsanne. C'est un imprimeur éditeur charmant et ils se feront un plaisir d'approvisionner les librairies. Il n'y a aucun problème.
C'était Patrice Grégoire, auteur et conférencier à propos de l'industrie métallurgique en Sarthe, dans Racines et Patrimoine, un magazine coproduit par Fréquence Sillée, Radio Alpes-Mancelles et Le Pays de la Haute-Sarthe. Au reportage, Éric Lucas, à la réalisation, Nathalie Lotin, de Fréquence Sillée.